qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. En Dunino Ferrer, encore ? Geneviève d'excédé, ça fait des mois que la radio préférée de son compagnon, François Renault, ne cesse de passer ce titre en boucle, même la nuit. Le juge au volant de sa vieillissante BMW ne s'en plaint pas, bien au contraire. Il sifflote dans la nuit noire, se fraye un chemin au cœur du 9e arrondissement de la ville de Lyon. Le couple achève sous l'éclairage blafard des lampadaires publics une soirée chez des amis. Elle s'est parfaitement déroulée. François a encore eu l'occasion de ressasser ses vieilles histoires sur la résistance et la guerre. Tout va pour le mieux, même pour Geneviève qui ne supporte pas la bande-son. Encore quelques minutes et ils seront au pied de leur immeuble. Encore quelques minutes et Morphée viendra les cueillir pour un repos bien mérité. Si seulement le destin est une divinité bien capricieuse. Il fait basculer les existences en un clin d'œil. Dans la pénombre de la montée de l'observance, des ombres se sont glissées. Elles sont venues pour un homme, le juge Renault. Nous sommes le 3 juillet 1975. Il est un peu plus de 2h30 du matin. Et c'est leur hache de mon histoire. Tu sais, Geneviève, Lyon la nuit est la plus belle ville du monde. La compagne du juge, fatiguée, ne répond pas. Elle se contente de sourire. Il n'a pas totalement tort, le magistrat. Sous leurs yeux, la basilique de Fourvière semble trôner dans le ciel. Flamboyante, elle toise la berline qui se glisse au pied de la montée de l'observance. Flamboyant, c'est aussi l'adjectif qui convient le mieux au juge Renault. Une moustache finement taillée en guidon, des cheveux mi-longs, soyeux, qui lui tombent derrière les oreilles. C'est un personnage bien connu de la métropole. Il faut bien dire que son style est inimitable. Des pantalons en velours, parfois, des Santiago, des chemises pastel. Ce style coloré est bâti en contradiction de ses méthodes d'instruction, disons, musclées. Non, rien pas à dire. Le juge Renault, c'est quelque chose. Dans les prétoires et les couloirs des palais de justice, on l'appelle le shérif. De quoi donner le ton. Le véhicule parcourt quelques dizaines de mètres avant d'arriver près du numéro 89 de la montée. C'est là que se trouve le parking de la vigie, non loin du domicile du couple. François Renault se gare, coupe le contact et sifflote encore le même air. Geneviève, elle, n'y prête pas attention. Ce qu'elle a vu, en revanche, c'est que son compagnon vient de sortir d'une des poches de sa veste un de ses foutus cigares. Bon, il est trop tard pour fumer, tu crois pas que ça suffit pour ce soir, non ? Son ton est calme, mais assez sec, pour que le juge se ravise. Le cigare retrouve la poche. Le couple descend la rue. Ils sont à quelques dizaines de mètres de la porte d'entrée de l'immeuble. Ils peuvent déjà apercevoir le bâtiment. La nuit noire est tombée sur Lyon. Elle règne en maître. Les mains derrière le dos, le juge s'apprête à traverser la rue. Soudain, une petite voiture de couleur claire apparaît à sa gauche. Ralentissant progressivement, elle vient stopper son avancée tout près de lui. Geneviève regarde son compagnon. Ce dernier lui sourit. « Tu peux aller ouvrir la porte de l'immeuble, chérie ? Ces gens sont certainement perdus, je vais les renseigner. » Le juge s'approche de la carlingue. La vitre côté passager s'abaisse. Geneviève n'a pas eu le temps de bouger. Le destin bascule. Tout se joue en quelques petites secondes. Le magistrat qui s'approche du véhicule peine à distinguer dans la nuit le visage de son interlocuteur. Et pour cause, il est cagoulé. Tout de suite, il comprend. Trop tard. Deux coups de feu éclatent. Geneviève est abasourdie. Elle n'a Dieu que pour son compagnon sur lequel on vient de faire feu. Et miracle, il n'est pas touché. lancé comme une fusée. Il attrape la main de sa compagne. Mais vite, cours! Faut qu'on se cache! À vive allure, le couple descend la montée de l'observance. Ils n'ont pas eu le réflexe de traverser la rue pour tenter de pénétrer dans leur immeuble. La manœuvre était de toute façon trop risquée. Essoufflé, le juge va aussi vite qu'il le peut. Encore quelques mètres, et ce sera le boulevard. Ils pourront certainement y trouver une échappatoire. Derrière eux, la voiture de ses poursuivants enclenche la marche arrière. Renaud ne se retourne pas, il faut presser le pas. Quelques mètres, et le véhicule qui les pourchasse cale. Ça, c'est leur chance. Le magistrat est à bout de souffle. Geneviève, elle, ralentit le mouvement. Elle n'y peut rien, la compagne du juge. Elle n'avait pas prévu de devoir courir pour sa survie, là, en plein milieu de la nuit. Elle porte des talons, se tord la cheville plusieurs fois. La voiture redémarre. À toute berzingue, voilà qu'elle emprunte la pente. Le couple se retrouve pris au piège. Bientôt, le véhicule est tout près d'eux. François Renaud attrape sa compagne par le bras, se planque avec elle derrière la carrosserie d'une voiture garée là. C'est un bien piètre refuge. Le magistrat n'en avait pas d'autre. Sans même descendre de leur caisse, les assaillants se mettent à tirer. Un déluge de feu s'abat sur la cachette du couple. François Renaud est touché à l'épaule. Il étouffe un cri. Geneviève, elle, est mortifiée dans ses bras. Elle n'a rien, et c'est un miracle. La scène ne dure que quelques secondes. Les dernières douilles tombent au sol, et puis la nuit retrouve le silence dont on l'a momentanément arraché. Recroquevillé, entend bientôt des bruits de pas. Ce dernier, inlassablement, se rapproche. Un des assaillants est descendu du véhicule. Il contourne la carlingue, encore fumante. Il ne tarde pas à faire face au magistrat. Et là, tout va très vite. Le juge a le temps de repousser sa compagne afin de la protéger. Elle n'intéresse pas le tueur. Ce dernier pointe son canon sur François Renaud, tire à deux reprises. Une balle le touche dans le cou, l'autre à la base de la nuque. Suffisant. Pour tuer un homme. Pourtant, la victime respire encore. L'assassin s'approche. Lui envoie dans les reins un coup de pied sans retenue, puis, avant de partir, lui tire à trois reprises dans la tête. Il vide son chargeur. La violence est inouïe, insupportable même. La voiture des tueurs s'en va dans un crissement, laissant seule Geneviève et son compagnon agonisant sur le trottoir. La femme a encore la force de courir jusqu'à leur appartement. Pas pour fuir, non, mais pour appeler les secours. L'ambulance qui arrive sur les lieux tente le tout pour le tout. Elle embarque le juge qui résiste autant qu'il peut, mais il est trop tard. En quelques minutes, il succombe à ses blessures. Le décès est prononcé dans le véhicule. Il est 2h45. La France, elle, se réveille dans un fracas indescriptible. Un juge assassiné? Mais qui pouvait bien en vouloir au juge Renaud à ce point? La pègre lyonnaise qui le déteste? La piste semble attrayante, peut-être trop. Des murmures commencent à circuler. Et si le magistrat en savait trop? Aurait-il pu mettre la main sur des dossiers ultra sensibles? Et si c'était la République qui voulait la peau du juge Renaud? Impossible, dites-vous. Soyez pas si sûr de vous. Commence quelques jours avant le drame. Nous sommes à Lyon, dans l'appartement du juge Renaud. Le souper vient d'être servi, et dans la cuisine, la fin de journée amène dans le ciel des teintes crépusculaires. Le magistrat est en compagnie de son fils cadet, Francis. Ce dernier vit dans un studio non loin de là, et aime partager des moments avec son paternel. Mais ce soir, plus que de coutume, la mine du fantasque juge est grave, sombre. Il semble se tramer quelque chose. C'est assez peu perceptible, à vrai dire. Renaud est un homme solaire, qui sait très bien dédramatiser des situations que d'autres pourraient vivre avec un sentiment de panique au creux du ventre. Son fils, pourtant, n'a pas manqué de remarquer l'inquiétude qui semble se lire au fond des yeux du magistrat. « Papa, est-ce que tout va bien ?» La réponse qu'il reçoit lui glace le sang. « Oh, tu sais. Je suis arrivé à un tournant de ma vie. Il est bien possible que je me fasse flinguer, et puis, si c'est le cas, ben, j'entrerai dans l'histoire et on parlera de moi longtemps. Abasourdi, son cadet lui demande pourquoi il pourrait bien se faire abattre. Sa réponse limpide. J'ai un froid définitif dans l'assistance. Ben, en fait, je suis sur une très grosse affaire. Ce dossier serait-il à l'origine de la mort du magistrat? C'est possible. Alors qu'il tombe sous les balles, les enquêteurs vont devoir comprendre ce qu'il s'est passé au cœur de la nuit. Et plus encore, qui sont les assassins de Juge Renaud? Toutes les forces de l'ordre de la métropole lyonnaise se mettent en marche. Elles cherchent à comprendre quel est le profil des tueurs. Bon, premier constat. La cible n'avait que peu de chances d'échapper au bourbier dans lequel il est tombé. L'équipage d'assassins a tout prévu. Ils ont visiblement attendu longtemps, dans la pénombre, le retour du juge chez lui. Des indices permettent de retrouver le lieu de la planque des tueurs, en contrebas de l'observance. Ainsi, aucun doute. Les tueurs connaissaient le modèle et la couleur du véhicule du magistrat. Rien n'a été laissé au hasard. Cela semble indiquer que la victime a fait face à une équipe composée de professionnels. La scène, elle, s'est déroulée sans la présence d'aucun témoin. Il n'y a que Geneviève, la compagne du juge, qui peut parler de ce qu'elle a vu. Mais, prise au milieu de cette innommable scène de guerre, victime collatérale de la violence inouïe qui s'est abattue sur l'homme qu'elle aime, elle n'est pas en mesure de faire avancer l'enquête. Et puis, de toutes les façons, les assaillants portaient une cagoule. Il va donc falloir faire parler la scène de crime. Les forces d'enquête ne traînent pas et veulent obtenir des résultats rapides. Premier élément passé au peigne fin, la voiture derrière laquelle le magistrat et sa compagne se sont planqués. La carlingue ressemble à un gruyère. Elle témoigne de la violence de la scène. Des plombs sont retrouvés dans l'habitacle et permettent d'identifier l'arme responsable de l'assassinat. Un calibre 38 de la marque Smith & Wesson. Pas de quoi connaître une avancée décisive. Le modèle est classique, difficilement traçable. Plus encore que la ville de Lyon, c'est le pays tout entier qui s'embrase lorsque la presse publie l'effroyable nouvelle. Et pour cause, Renaud est une star. Son style inimitable, sa manière de travailler, son parcours, tout force le respect. Dans le Rhône, le juge est le visage des affaires difficiles. Beaucoup le considèrent comme un véritable acharné. Dans sa jeunesse, il rejoint le maquis pendant la Seconde Guerre mondiale. Il vient alors d'avoir 20 ans. Il va terminer le conflit dans les rangs de la première armée, sous les ordres d'un certain Delattre de Tassigny. Ce parcours d'exception, qui dénote un courage hors du commun, François Renaud le poursuit au début des années 50. Il intègre l'école de la magistrature. Une fois son diplôme obtenu, le jeune homme va officier un temps dans les colonies françaises en Afrique, avant d'intégrer les équipes lyonnaises. Sa carrière va alors connaître un bond en avant. En 1972, il décroche la timbale en devenant premier juge d'instruction du palais de justice de Lyon. Son exposition dans les médias est alors beaucoup plus importante. Il faut dire que son atypisme provoque de nombreux articles et certaines résistances dans les rangs de la magistrature. Son surnom de shérif fait référence à ses manières musclées qu'il emploie lors des instructions qu'il mène. Mais c'est aussi un assidu du monde de la nuit. Il n'est pas rare de le voir assis non loin des voyous qu'il traque la journée. Bref, ses méthodes interrogent. Il n'hésite pas, par exemple, à mettre les proches de ceux qu'il inculpe derrière les barreaux pour les faire craquer. Ah, Renaud est sans pitié, mais c'est sans surprise que sont posés sur son bureau les dossiers les plus sensibles, qu'ils soient mafieux ou politiques. Le magistrat traite en l'espace de 8 ans pas moins de 1500 affaires. Chaque fois, il met les mains dans le cambouis. Il se bat contre l'injustice. déteste toute forme de magouille ou de compromission. Il fait face à des gangs, à la résolution de règlements de comptes ou à des affaires très médiatiques. On pense notamment à l'enlèvement d'Yves Martin Laflèche, un notable lyonnais. Rapidement, le juge se fait des ennemis de taille. Désinvolte, il a tendance à ne pas montrer beaucoup de considération pour les accusés qu'il interroge. Il devient donc très vite un antagoniste pour les malfrats de Lyon. Son assassinat ne surprend pas tout le monde. Bien au contraire même. Les forces d'enquête en charge de l'affaire vont se retrouver au cœur d'un nébuleux mystère. Le sentiment dans la presse nationale est unanime. Une ligne rouge a été franchie. Le juge Renaud est le premier magistrat assassiné depuis les temps sombres de la Deuxième Guerre. L'opinion est profondément choquée. Elle attend des réponses. Pierre Richard, commissaire divisionnaire de la PJ de Lyon, est sous pression. D'emblée pour lui, pas de doute. Les dossiers sensibles du juge forment le mobile principal de son exécution. Reste à savoir lequel a provoqué la funeste escalade. Les méthodes employées pour l'abattre font penser aux policiers que la pègre est mêlée. Mais pour le moment, il n'y a pas de certitude. Le magistrat n'est pas encore mort depuis 24 heures. Et pourtant, toute la France souhaite des avancées rapides. Le commissaire va devoir agir. Le président de la République, Giscard d'Estaing, envoie à Lyon son ministre de la Justice. Signe supplémentaire, s'il le fallait encore, que c'est la France qui vient d'être touchée. L'homme d'État met la pression aux enquêteurs, lui aussi. Mais les pauvres bougres ne sont pas bien lotis. Hormis le signalement de la voiture claire et la certitude de l'emploi d'un calibre 38, ils n'ont rien. Enfin, pour le moment. Les forces de l'ordre se lancent dans une recherche qui paraît désespérée, celle du véhicule, certainement volé. En croisant les signalements et les informations en leur possession, ils finissent par mettre la main dessus, grâce à un signalement téléphonique. Nous sommes moins de 72 heures après le meurtre. Le véhicule est relié à l'affaire grâce à des cartouches retrouvées dans l'habitacle. Enfin, les enquêteurs peuvent souffler, ils tiennent une piste. Ils ne tardent pas à retrouver la propriétaire du véhicule, une Lyonnaise, vivant à proximité des lieux du crime. Ainsi, il est probable que les tueurs soient du coin. La pègre du Rhône serait-elle en cause dans l'affaire ? Trop tôt pour émettre des certitudes. Par contre, ce qui est certain, c'est que le juge Renaud vivait avec une cible dans le dos. Bien des prisonniers à Lyon haïssaient le magistrat et ses méthodes. Assez pour orchestrer son assassinat. Ouais, peut-être bien, ouais. Lorsque les radios diffusent la nouvelle de sa mort, on raconte que la prison Saint-Paul à Lyon s'est animée et que la majorité des prisonniers s'est mise à applaudir. Il y a des truands un peu spéciaux à Lyon qui sont bien heureux de la mort du juge Renaud. L'affaire sensible que le magistrat traitait au moment de son décès, c'est celle du gang des Lyonnais. Des braqueurs parmi les plus terribles de l'histoire criminelle française. Des malfrats qui, à n'en pas douter, peuvent avoir le cran de faire exécuter de sang-froid un juge d'instruction. Mais sont-ils pourtant coupables ? C'est à l'enquête de le démontrer. Le juge Renaud est mort depuis quelques heures seulement. La PJ de Lyon est l'une des plus importantes de France. C'est l'une des plus efficaces aussi. Et pourquoi, me direz-vous ? Outre des agents de qualité, elle peut compter sur un réseau d'informateurs particulièrement loquace. Alors que le dossier ne mène encore nulle part, un homme se présente à la police judiciaire. Il sait qui a tué le magistrat. D'après lui, l'affaire a été commanditée par le gang des Lyonnais. Commanditée, oui. Parce que le juge Renaud a mis en prison les braqueurs. D'après l'informateur, la bande aurait engagé 5 tueurs, répartis en 2 équipages. Des professionnels ? Non, pas vraiment, non. Du moins, pas pour 2 d'entre eux, qui seraient issus de la communauté gitane. L'informateur n'a pas de nom, mais une description physique. Il se dit qu'un des tueurs aurait la jambe cassée. Pour les enquêteurs de la PJ de Lyon, cette info a l'effet d'une bombe. Ils connaissent bien un voyou qui pourrait coller à ce profil. Il s'appelle Mimi. Et ce malfrat, c'est le cousin d'Edmond Vidal. Ce nom ne vous dit rien, Edmond Vidal ? Eh bien, figurez-vous que Vidal est le grand chef du gang des Lyonnais. Coïncidence ? Les enquêteurs, eux, ne le croient pas, non. Ce lien présumé entre l'un des assassins du juge et les braqueurs qui font la pluie et le beau temps dans le Lyon du début des 70s est une avancée significative pour l'enquête. Pour autant, le fait que les têtes pensantes de la bande se trouvent en prison ne facilite pas la tâche de la PJ. Les malfrats sont derrière les verrous depuis la fin d'année 1974. Le juge Renaud et le commissaire Richard sont à l'origine de l'opération qui a conduit à leur neutralisation. Il est donc facile pour le divisionnaire de la PJ de soupçonner le gang des Lyonnais d'avoir fait le coup. Mais pour lui, le plus dur reste à faire. Il faut le prouver. Près de deux semaines après le drame, un nouvel informateur débarque dans les locaux de la police judiciaire. Il a des noms. Trois, pour être plus précis. Marin, Lamouret, Alfani. Oh, les policiers les connaissent bien, oui. Ce sont des membres de la pègre lyonnaise. Oui, mais il est impossible